Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Raveli Lemel. Rav Lemel, bonsoir et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors Rav Lemel, le plaisir du samedi soir, c'est qu'on commence tout de suite une nouvelle paracha. Et donc on arrive au chapitre Vayetse. Et alors là, vous, dans Vayetse, vous avez vu plusieurs choses, puisqu'il y a une confrontation entre Yaakov et Lavan. Et Yaakov, c'est, comme on le sait, il est tellement droit, si j'ose dire, qu'il est droit dans toute sa plénitude. C'est vraiment, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle Israël, c'est quelqu'un de vrai et de droit. Mais alors, comment on fait quand on est face à quelqu'un qui n'est pas droit? Et déjà, la première chose, c'est que Yaakov dit, moi, je veux pas rester avec toi. Toi, tu habites là, moi, j'habite là. Mais après aussi, quand on est dans un univers dysfonctionnel, comment on fait pour évoluer, rester soi-même, etc. Et donc, c'est sûr que vous avez énormément de choses à nous dire ce soir.
Exact. C'est vrai qu'on a dans cette paracha quelque chose qui va nous rappeler d'ailleurs une autre rupture, puisque Yaakov va se séparer donc de son beau-père Lavan. Il va prendre de la distance. Et on se rappelle qu'un événement de ce type a déjà eu lieu plus tôt dans les mêmes circonstances, en tout cas confronté aux mêmes problématiques. De quoi s'agit-il? Revenons un tout petit peu en arrière, si vous le voulez bien. On est donc avec Abraham et son neveu Lot. On se rappelle que Lot, c'est le neveu d'Abraham. Abraham et Lot sont en mouvement. Il y a un moment, ils vont se séparer. Et c'est Abraham qui va proposer cette séparation, qui va dire clairement qu'elle s'impose. Et il va dire à Lot, écoute, si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite, mais nos chemins se séparent. Ce qui, au passage, n'empêchera pas Abraham par la suite, lorsque Lot sera prisonnier, d'intervenir pour le délivrer. Ça veut dire que cette prise de distance, en ce qui concerne Abraham, et on va le voir avec Yaakov dans quelques instants, n'est pas du tout le déni de l'autre. Et quand l'autre est en difficulté, ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas intervenir pour lui. Seulement, rappelons-nous qu'on est ici face à la même problématique, c'est-à-dire de vivre dans la proximité de quelqu'un de dysfonctionnel avec l'impact que ça peut avoir. Et cette dimension dysfonctionnelle, elle n'est pas visible. En tout cas, il faut vraiment la repérer, il faut vraiment se focaliser dessus. On se rappelle qu'il s'agit de la relation entre Abraham et Lot, il s'agit d'une confrontation entre leurs bergers, parce que les bergers d'Abraham, eh bien, voient que les bergers de Lot ne musellent pas leurs troupeaux, et les laisse paître un petit peu à droite à gauche, se disant qu'au fond, bon, cette terre de Canaan, un jour appartiendra à Abraham, et comme Abraham n'a pas de descendants et que Lot est celui qui est le plus proche, donc un jour c'est Lot qui pourra y être, et donc à partir de cela, c'est bon, ça va, potentiellement c'est à lui. Au fond, il y a ici une rupture avec la droiture, justement. Mais concrètement, ce n'est pas Abraham, concrètement, ce n'est pas Lot, donc vous ne pouvez pas. Et Abraham se sépare. Pourquoi? A priori, on aurait pu imaginer qu'Abraham va rester avec Lot et peut-être essayer de le convaincre, de changer. Abraham a compris qu'il y a des proximités toxiques lorsque justement elles se situent au niveau d'un manquement dans le domaine de l'éthique et de la droiture. Lorsque vous êtes à proximité de gens que l'on appellerait objectivement toxiques, alors je ne sais pas si on peut parler de personnes qui sont objectivement toxiques, mais en tout cas, si vous êtes à côté de personnes qui font vraiment des choses, mais comme on dirait un petit peu comme les enfants, pas bien du tout. Bon, ben, dans ce cas-là, on sait très bien qu'on ne peut pas y être. Donc, d'une certaine manière, vivre pas trop loin d'elle ne pourrait pas être trop dangereux, entre guillemets, parce que c'est tellement évident qu'il ne faut pas, qu'à partir de là, eh bien, évidemment, on n'ira pas. Par contre, c'est plus subtil. Et donc, à partir de cela, eh bien, on peut au bout d'un moment se dire, au fond, c'est peut-être pas tellement un problème, et ce dysfonctionnement se mettrait en place. C'est ce qui va se passer avec Yaakov et Lavan, son beau-père. eh bien, est quelqu'un qui, que bon, d'ailleurs son nom le dit, et c'est une idée qu'on avait déjà évoquée ensemble, Havane, c'est quelqu'un qui est blanc, c'est quelqu'un qui a l'air d'être sympathique, quelqu'un qui, a priori, voilà, se comporte comme il se doit. Seulement au niveau de son rapport à l'honnêteté, à la droiture, surtout dans ce qu'on appelle aujourd'hui le monde des affaires, c'est très moyen. C'est très, très moyen. Et donc, à partir de cela, Yaakov sait qu'il a des enfants. Et quand vous avez des enfants et que ces enfants vivent dans un monde dans lequel le rapport à l'honnêteté, à la droiture est un peu borderline, eh bien, au bout d'un moment, ils risquent de ne plus être trop vigilants par rapport à ce genre de choses. Et donc, Abraham comprend qu'il doit en effet se séparer de... Pardonnez-moi, Yaakov comprend qu'il doit se séparer de Lavan. Il comprend qu'en effet, il ne peut pas rester à côté parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir un impact. Au bout d'un moment, il va y avoir un état d'esprit qui se construirait. Et quand cet état d'esprit se construit, eh bien, ça peut devenir dramatique. Et là, il va se séparer de lui. Il va se séparer de lui. Et on va voir d'ailleurs que lorsque Lavan va le poursuivre, lorsque Lavan, lorsqu'il voit que Yaakov est parti, parce que Yaakov part un petit peu en catimini, parce que aller expliquer au fond à quelqu'un qui est très légèrement borderline dans le domaine de la droiture que c'est quelqu'un de potentiellement dangereux, qu'on ne veut pas rester à ses côtés, il va dire, mais au fond, tu te moques du monde. Et donc, il ne peut peut-être même pas entendre ce qu'on lui dit. Et ce qui est paradoxal, c'est que Lavan, lorsqu'il va le poursuivre et qu'il va le rattraper, il va lui dire, attends, regarde, j'ai tout fait bien comme il faut avec toi, etc., etc. Et Yaakov ne va pas mettre en exergue en premier lieu le dysfonctionnement qu'a eu Lavan, mais il va aussi parler de sa manière à lui d'avoir fonctionné lorsqu'il était littéralement employé chez lui. Yaakov va lui dire, mais au fond, c'est quoi cette histoire? Et il va énumérer ce que l'on appelle la notion de, j'ai presque envie de dire, de Messirut Nefesh, le don de lui. Il va décrire des choses quand même très intéressantes, que jour et nuit, il a été à la garde des troupeaux, il n'a pas eu peur du froid, il n'a pas eu peur de la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il avait pris un engagement et il tenait à fonctionner dans la droiture la plus absolue. Et évidemment, Lavan n'a rien à dire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la Torah, sur la base de ça, va nous apprendre quels sont les fondamentaux de quelqu'un qui est en relation d'affaires avec une personne, de quelqu'un qui est son employé. C'est intéressant de voir que cette notion de droiture, Yaakov va la voir alors qu'il est face à quelqu'un qui s'appelle Lavan et qui lui-même fonctionne totalement différemment. En deux mots, il n'utilise pas le prétexte de ben, « les autres le font, alors je peux me permettre ». Non. Yaakov va voir dans un rêve Dieu qui lui dit « écoute, voilà, c'est comme ci, comme cela que tu vas devoir maintenant avoir tel et tel troupeau ». Mais Yaakov garde cette droiture, garde cette authenticité. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là l'enjeu de la transmission. Il sait qu'au fond, ce qui va transmettre, c'est un vécu, c'est une manière d'être, c'est ça qui va s'inscrire profondément au niveau de ceux qui sont à ses côtés et en premier lieu ses enfants. Et c'est intéressant parce que, vous savez, cette imprégnation des valeurs que l'on véhicule à travers sa réalité quotidienne, on va la retrouver dans un autre endroit de manière assez intéressante, toujours avec Abraham. Mais Abraham, vous savez, dans cet épisode dans lequel il a accueilli ces fameux trois personnages, ces anges, n'est-ce pas? Mais Abraham ne sait pas que ce sont des anges. Abraham, le texte là-bas, de manière assez curieuse, nous dit que Abraham va courir, courir à leur rencontre, dit à son épouse, vas-y, il faut se presser, il faut courir, préparer, etc., etc. Et vous savez qu'il y a là-bas quelqu'un. Et ce quelqu'un, qui est donc le fils d'Abraham, qu'il a eu avec Agar, s'appelle Ismaël. Et Ismaël, ben, il participe aussi à cette histoire, il aide Abraham à recevoir, mais Abraham ne lui dit pas de courir. Quelqu'un l'autre jour partageait avec moi cette idée que j'ai trouvée très intéressante. Pourquoi il n'a pas besoin de lui dire? Parce que Ismaël court. Pourquoi? Parce que Ismaël a vu Abraham courir de manière générale. Il l'a vu être dans cet empressement. Et donc, en tant qu'enfant, il s'est imprégné de ce modèle de fonctionnement, on n'a plus besoin de le lui dire. Il n'y a rien de pire que de se sentir obligé de dire à un enfant, il faut être droit, il faut être honnête. Il n'y a rien de plus dramatique que d'être obligé de dire des choses qui sont censées s'acquérir à travers l'expérience d'un vécu. Et c'est ça, au fond, que ce texte est en train de nous apprendre. Ce texte nous dit que lorsque Yaakov est face à Lavan, il comprend le danger de cette imprégnation au quotidien de choses qui ne sont pas tellement visibles au niveau de leur dimension dysfonctionnelle comme Abraham l'avait fait avec Lot. Et dans ce cas-là, il vaut mieux s'éloigner. Et Abraham rappelle comment il a vécu, comment il a été, comment il a été il a au quotidien, parce que c'est ça, au fond. Ce n'est pas juste un argument vis-à-vis de son beau-père. Il nous décrit, il nous dit à nous, voilà ce que nous devons être au niveau de la recherche d'une démarche éthique et droite, surtout, surtout, surtout dans le rapport à l'argent, dans le rapport à ce qu'on appelle la parnassa. Et à partir du moment où ce fonctionnement est présent, eh bien ceux qui sont autour de nous s'en imprègnent, comme nous le voyons dans l'histoire d'Abraham avec ses invités ou Ishmaël. On n'a même pas besoin de lui dire qu'il faut s'empresser, qu'il faut courir, parce qu'il le sait, parce qu'il a vécu. Et cette idée-là, eh bien, ce n'est pas juste une théorie. Évidemment, ça doit nous amener à repenser à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette dimension de droiture. On n'est jamais totalement droit, évidemment, parce que c'est un vrai travail de vie. Mais en tout cas, savoir que c'est vers cela où l'on doit tendre.
Je crois que c'est très très important ce que vous venez de nous dire. Ça l'est toujours, mais je crois que là, avec votre permission, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur quelque chose. Vous qui êtes un enseignant, c'est ce qu'on appelle l'éducation silencieuse. Et peut-être deux exemples pour vraiment, vraiment comprendre que c'est très important ce que vous avez dit. On est tous très inquiets de ce que vont devenir nos enfants. Et si vous leur montrez que pour vous c'est très important Shabbat, ils le sauront. Parce que quand vous passez à table, pour vous c'est très important. Parce que votre épouse, quand elle allume les bougies, ça se voit que c'est un moment important. Et ça restera. Et c'est pour ça que je dis que c'est très important ce que vous dites. Moi, je suis pas, malheureusement d'ailleurs, mais je suis pas quelqu'un qui étudie. Mais je sais que ça, c'est, je le sais parce que je l'ai vu, je l'ai vécu. Autre exemple. Si votre enfant, il voit que ça vous galère d'appeler votre mère, ne soyez pas surpris si un jour il vous le fait à vous quand vous serez âgé. Si il voit que c'est très important d'appeler votre mère, il vous appellera pareil quand ce sera vous qui serez âgé. Alors voilà, je me suis permis juste de dire ça, mais c'est parce que je vous ai vraiment écouté avec énormément d'attention. Très important. Vous êtes d'accord avec moi, bien sûr.
Ben, je partage à 100% et
100%.
surtout sur ce dernier exemple dans lequel, quand des parents ont des relations un peu surprenantes avec leurs propres parents, alors bien sûr, il y a parfois des parents totalement dysfonctionnels avec lesquels il faut être en distance, mais c'est ultra rare. Il faut jamais oublier que vos enfants vous observent et que s'ils se rendent compte qu'au fond, ben, on peut ne pas calculer ses propres parents, alors eux-mêmes auront cette liberté. Et on le voit aussi dans le couple, s'ils voient que papa ne calcule pas maman, pardonnez-moi cette
Ah
expression un
ouais.
peu légère, ou le contraire,
Il en
on ne va
fera
pas leur
pareil.
demander par la suite d'être dans la relation à ce parent que l'autre met de côté, avoir une relation réelle de respect. C'est en effet quelque chose sur lequel la Torah insiste de manière très claire.
Ravelli Lemel, je vous remercie et Shavua Tov.
Shavua
Tov.
Et on retrouve à présent Rav Mordechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shavua Tov.
Shavua Tov, mon cher Bernard, Shavua Tov.
Alors Rav Mordechai, on continue notre étude de la paracha. Et vous voulez parler de l'échelle, la fameuse échelle qui a même été reprise par Chagall, que tout le monde a vu, l'échelle qui apparaît dans un rêve de Yaakov, mais vous constatez que ce rêve est arrivé à un moment où Yaakov était en voyage pour constituer sa famille et que bien sûr dans la Torah il n'y a jamais de hasard et que les deux choses sont liées.
Alors maintenant, dans la paracha de Vayetzé, nous rentrons dans la semaine de la lecture des parachas de Vayetzé. On a squeezé dans notre émission paracha de Toldot. Paracha de Toldot, c'est la paracha dans laquelle Yaakov reçoit les bénédictions d'Yitzhak et est chargé de ce cadeau spirituel, ce cadeau mental, psychique, spirituel. Il devient porteur du message d'Abraham et Yitzhak, le continuateur. Lui, Yaakov, et il doit quitter cet endroit car il est pourchassé par Esav. Donc dans cette paracha, on nous raconte que Yaakov est parti, en fait, il s'est enfui, il a voulu échapper à Esav. Mais il va partir vers Haran, donc pour épouser une femme et en fait construire le peuple juif. Le peuple juif se construit en exil, loin d'Eretz Israël, chez des gens impies, des gens menteurs, des assassins, dans une atmosphère qui est une atmosphère délétère. Il va falloir chercher une neshama là-bas, une âme, qui est une âme pure, avec laquelle il va s'unir et avec laquelle il va fonder le peuple juif. C'est intéressant, pourquoi est-ce que le peuple juif naît en exil? Le peuple juif naît en exil parce que sa vocation, c'est de faire le lien. C'est de faire le lien. La Torah, c'est le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Le juif est le porteur d'un lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Le juif fait le lien. Mais en général, d'ailleurs, c'est très intéressant, tout au long de l'exil, notamment des 2000 ans que nous avons passé, le juif a toujours été le lien entre, très souvent, les gouvernants et le peuple. Napoléon, par exemple, explique par l'intermédiaire du chancelier Pasquier lorsqu'il crée le consistoire, en fait, il a besoin des juifs, parce qu'en Pologne, ben, tout passait par eux. En fait, les juifs faisaient le lien. Mais plus spirituellement, le juif fait le lien entre le spirituel et le matériel. En exil, là-bas, il fait le lien au cœur d'un monde matériel et matérialisé, entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle. C'est la particularité du juif. Alors, au cours de ce voyage, Yaakov fait un rêve. Et dans ce rêve, il voit une échelle qui tient d'elle-même, et sur cette échelle, il voit comme éléments symboliques, des éléments qui sont fondamentaux pour l'expérience juive. D'abord, il voit des anges qui montent et qui descendent. Ensuite, il voit que cette échelle tient toute seule. Ensuite, il voit que lui, il est à l'extérieur, il est spectateur de cette échelle. Et il voit que Dieu se tient en haut de cette échelle. Expliquons. Dieu lui envoie un message. Et il envoie par son intermédiaire un message au peuple juif. Les anges montent et descendent. Mais toi, Yaakov, qui est à l'extérieur et qui est spectateur, tu n'es pas tenu par les anges. Les anges ont leurs règles, toi tu es au-dessus des anges. Par le don de la Torah, par le fait que le peuple juif est porteur de la Torah, il est en quelque sorte associé à Hachem dans la préparation de l'histoire, dans l'élaboration de l'histoire. Ça, c'est la posture de Yaakov. Les anges représentent les nations, les empires qui vont dominer le monde. Ils montent et ils descendent. Et d'hommes, sans monter, sans jamais s'arrêter, c'est Dieu qui dit un jour, c'est moi qui mettrai fin à l'exil, l'exil de Edom, celui dans lequel on est aujourd'hui, qui se terminera avec la chute de Ishmaël et certainement celle de Edom aussi. Donc ça, c'est la symbolique du rêve. Mais il y a une autre symbolique ici, une symbolique qui touche Yaakov lui-même. L'échelle, elle représente la possibilité de monter, mais aussi la possibilité de descendre. Est-ce qu'on peut sauter des barreaux d'échelle? Non, on est obligé de monter barreau après barreau. Pour monter, il faut accepter cette idée que tout se fait pas à pas, qu'il y a encore, en quelque sorte, un temps psychique, un temps émotionnel, un temps intellectuel, un temps moral, un temps spirituel, pour que les choses se décantent, pour qu'on puisse monter et faire son travail. Et donc, c'est cette représentation de l'échelle qui a les pieds au sol, en quelque sorte enracinés dans le sol, qui passe au-dessus, des rêves d'Israël et qui s'envole vers le ciel, elle représente cette possibilité-là, cette possibilité de s'élever pas à pas. Il y a un autre point. Yaakov est arrivé à cet endroit-là, mais en quelque sorte, il l'a rencontré, cet endroit, d'accord ? Vaïfga Bamakon. Il y a une rencontre ici, une rencontre subite. De là, on apprend qu'il a institué la prière de Arvit, la prière du soir. La prière du soir, elle se fait dans la nuit. Elle symbolise la prière du juif dans l'exil, dans les ténèbres de l'exil. Et là, ici, il y a un point qui est très intéressant, cette notion de lumière dans l'exil. Mais c'est quoi cette lumière? Cette lumière, c'est Yaakov. C'est l'individu juif, relié à Hachem, conscient du monde dans lequel il vit, conscient du fait qu'il est spectateur d'un monde dirigé par Hachem. C'est Hachem qui dirige le monde, c'est Hachem qui décide ce qui va se passer. C'est ce que dit le Ramban, d'ailleurs, Nachmani dit ici, ce que Hachem montre à Abraham, à Yaakov, c'est que c'est lui qui dirige l'histoire. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide qui monte et qui descend. Et il y a là un point qui n'est pas très intéressant, notamment pour la période qu'on vit aujourd'hui. Chaque période de recomposition, on va dire géopolitique, où des empires vacillent, où des immigrations massives envahissent un continent, où des continents semblent se défaire, où en fait on semble passer d'une période à l'autre de l'histoire, sur des périodes très intrigantes et très effrayantes d'une certaine manière. Dieu conduit l'histoire. Et le peuple juif, il a une place dans cette histoire. C'est un phare de spiritualité. Un phare de spiritualité. Son rôle n'est pas d'épouser les idéologies contemporaines, de devenir en quelque sorte le porte-drapeau des idéologies contemporaines. Beaucoup de juifs se sont engagés, continuent encore aujourd'hui d'être les porte-drapeaux pitoyables d'idéologies complètement circonstancielles. Alors que le rôle du juif est d'incarner précisément ce lien entre le spirituel et le matériel, entre le mont Sinaï et le monde, entre l'échelle du rêve de Yaakov, la terre sur laquelle elle est posée, et le ciel vers lequel elle se dirige. C'est le rôle, un rôle d'être. Il suffit d'être, d'avoir reçu la Torah, de l'incarner dans son quotidien, et d'être ce que la Torah nous demande d'être. C'est ça l'engagement du juif. Et c'est un engagement absolument extraordinaire, qui peut être une lumière pour les nations, qui peut être un phare pour les nations du monde. La mission de Yaakov, c'est une mission qui est d'abord avant tout spirituelle. C'est extraordinaire, et on va terminer sur ça, c'est qu'elle passe encore par le fait qu'il part là-bas en exil pour constituer sa famille. Parce que le peuple juif, avant d'être un peuple, a été une famille. Et tout le Sefer de Bereshit nous raconte l'histoire d'une famille qui se constitue avec toutes ses hésitations, ses disputes, ses problèmes, comme pour nous alerter sur le fait que la réussite spirituelle est d'abord une réussite familiale et d'abord une réussite individuelle. C'est-à-dire, c'est quoi une réussite ? Une réussite, c'est la conscience du fait que je me construis par une échelle, par exemple. Je me construis en me construisant, en affrontant mes doutes, en affrontant mes échecs et en étant dans le remerciement vis-à-vis d'Hachem pour mes hatzlachot, pour mes réussites. Je me construis, je construis ma famille, j'édifie ma famille et je traverse l'histoire. Et c'est extraordinaire de voir que ce qui a permis au peuple juif de traverser l'histoire, c'est la famille juive. La famille, c'est la base, c'est la cellule de base des sociétés humaines. Et pour le peuple juif, c'est absolument fondamental. La réussite de la famille, c'est la réussite du peuple. C'est dans la famille que c'est d'abord tout ce qui va permettre au peuple de réussir sa mission, et tout ce qui va permettre d'abord à l'individu de réussir sa mission, et donc au peuple aussi de réussir sa mission. Voilà, réfléchir.
Rav Mordechai Biton, merci pour ces belles paroles nourrissantes. On va bien démarrer la semaine, et Shavuot Tov.
Shavuot Tov à toutes et à tous. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay et Shavuot Tov.
Bonsoir Shavuot Tov.
Rav Gay, vous voulez nous inviter à réfléchir ce soir sur Rachel. Et alors, il y a quelque chose qui vous a interpellé ce Shabbat, c'est que Rachel dans la Gemara est appelée Rachel, la femme tznoua, la femme. On précise qu'elle est tznoua. Alors d'abord, on imagine bien que toutes nos mères sont tznouotes. Puis deuxièmement, là où vous êtes interpellé, c'est pourquoi maintenant ? Alors, l'histoire avec Léa, elle, je ne vais pas faire la dracha à votre place, mais bon, elle accepte de laisser sa place à sa sœur. Pourquoi à ce moment-là, la Gemara nous précise que c'est une femme modeste et très pudique ?
Alors effectivement, donc je voudrais d'abord... expliquer que la Gemara, elle veut montrer le lien qu'il y a entre Rachel et ses descendants. Parce qu'elle va être l'ancêtre de Shaoul. Shaoul, je vous rappelle qu'il est un roi, le premier roi qui est donc de Binyamin, la tribu de Binyamin, fils de Rachel, et également de Esther. On dit que Esther est descendant. Donc il y a ici une sorte de liaison qui est faite entre ces différents personnages. Je vais expliquer pourquoi. La Gemara dit que c'est une question de discrétion. Shaoul est devenu roi, mais il ne voulait pas se mettre en avant. Il était toujours en retrait. Et on dit, il tient ça de son ancêtre Rachel, qui elle aussi se met en retrait, discrète, etc. Or, évidemment, c'est quelque chose qui nous paraît pas tout à fait être exact. Parce que ce que Rachel démontre dans la paracha, c'est qu'elle a tellement de respect pour sa sœur, elle veut tellement lui éviter l'humiliation, qu'elle va lui transmettre le code secret, entre guillemets, je dis code secret, qu'avait mis en place Rachel avec Yaakov. Yaakov soupçonnait déjà Lavan de vouloir le tromper. Donc, il avait donné un code à Rachel pour donner ce code et pour l'identifier. Et Rachel, voyant que Léa est amenée à sa place, elle va avoir ce très très beau geste d'aller vers elle, lui donner le code secret pour qu'elle puisse se faire passer pour Rachel. Dans le Midrash, c'est même écrit plus que ça, c'est écrit qu'elle se serait même glissée sous le lit pour répondre à la place de sa sœur lorsque Yaakov lui parlait, pour qu'il ne voit pas, qu'il n'entende pas la voix de Léa qui n'était pas la même que celle de Rachel. Donc vraiment aller jusqu'à imiter, se présenter enfin, dans la chambre, sous le lit, de façon discrète, pour pouvoir continuer à accompagner sa sœur et lui éviter l'humiliation. Donc vraiment une qualité incroyable, celle de laisser sa place, alors qu'elle devait être elle, la femme de Yaakov, pour éviter l'humiliation à sa sœur. En fait, ce que je voudrais retenir ici et expliquer, c'est que Rachel devait non seulement perdre Yaakov, mais en plus tomber dans les bras d'Esav. Parce que les gens disaient, c'est comme ça que Rachel le rapporte aussi, que l'aîné pour l'aîné et le cadet pour la cadette. Donc j'explique, il y a deux frères, Yaakov et Esav, et on a deux sœurs, Léa et Rachel. Les gens disaient, voilà, ben c'est logique, Léa va se marier avec l'aîné, c'est donc Esav, et Rachel va se marier avec le cadet qui est Yaakov. Mais si maintenant on donne Esav à Yaakov, Léa à Yaakov, alors Rachel, on sait avec qui elle va tomber chez Esav. Et là, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas seulement qu'elle ne va pas être avec Yaakov, c'est qu'elle va se marier avec un être que la Torah considère comme un vrai rachat, un mécréant, un voyou. Et donc vraiment, on est dans une perte, enfin un changement total de paradigme, d'espoir, de construction de vie, quoi. C'est une vie différente. Donc laisser la place à sa sœur et au départ penser qu'il ne se marierait pas, Yaakov, avec deux sœurs, puisque la Torah normalement interdit de se marier avec deux sœurs. Et tous les commentateurs vont essayer d'expliquer comment Yaakov a-t-il pu se marier avec deux sœurs. Mais le fait est que lorsqu'elle donne la place à sa sœur, elle prend le risque de tomber dans les bras d'Esav. Donc vraiment, c'est un très, bel, très beau geste. Et pour le comprendre vraiment, il faut analyser qu'est-ce que Rachel fait en fait. Elle comprend qu'elle ne peut pas accepter que sa sœur soit humiliée. Donc elle comprend qu'elle a le devoir de laisser sa place à sa sœur. Après, elle ne comprend pas le projet divin. Elle se dit, mais pourquoi Dieu m'impose ça? Rachel, Yaakov m'aime beaucoup, il est très attaché à moi. Comment se fait-il qu'on me mette dans une situation où je doive laisser ma place? Mais elle n'a pas de doute qu'elle doit laisser la place. Mais elle ne comprend pas le dessein divin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'accepte, elle se dit, si c'est la volonté de Dieu, je l'accepte totalement. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour protéger ma sœur. Je vais me retrouver dans les bras d'Esav. Qui sait, peut-être que mon rôle de femme, c'est de changer Esav, c'est de l'abadouer, de le transformer. Je n'ai pas du tout envie, j'ai envie de me marier avec Yaakov. Mais mes desseins, mes projets à moi, je suis prête à les mettre de côté pour laisser Dieu, entre guillemets, diriger ce monde. Et ça, c'est une force incroyable, non pas de la tzniout traduite comme elle est traduite habituellement, la pudeur vestimentaire, etc. Non, c'est une notion de laisser, ne pas se mettre en avant, ne pas imposer à Dieu sa vision. C'est-à-dire que là on parle de quelqu'un qui a un projet de vie et qu'il pensait être un bon projet de vie. Il voit que les circonstances font que ce projet de vie est remis en question et il accepte totalement, pleinement, de se retirer pour accepter le projet de vie que Dieu lui impose, qui s'impose à elle, en fait, parce que par les circonstances. Eh bien, ça, c'est quelque chose d'admirable, d'incroyablement admirable, parce que ça montre une grandeur d'âme incroyable et c'est surtout un message pour nous tous, pour notre capacité de se mettre en parenthèse, de laisser la place à l'autre, et surtout d'accepter le décret divin, même si on a l'impression que nos projets étaient des projets hautement grands et élevés, qui avaient des projets de se marier avec Yaakov, c'est pas n'importe quoi, c'est construire la maison d'Israël. Donc elle s'est dit, non, je vais me marier avec Esav, j'ai pas du tout envie de me marier avec lui, mais peut-être que c'est pour le bien, peut-être que je le ramènerai à au malheur de la famille d'Abraham et de Yitzhak. Tout ça, elle passe dans sa tête, vous imaginez bien, dans ces quelques minutes où il faut vraiment prendre une décision qui va changer sa vie. Finalement, on le sait, la suite de l'histoire, c'est que Léa, effectivement, donc, est restée la femme de Yaakov, même si ce n'était pas évident au départ, parce que Yaakov était très en colère. Mais finalement, il va la garder, et puis il va se marier avec Rachel aussi, donc son projet de vie va pouvoir se construire. Et elle va pouvoir être la maman de Yosef et de Binyamin, donc deux grandes tribus d'Israël. Mais elle devra accepter que Léa, qui n'était pas a priori voulue par Yaakov, va avoir la part du lion. Lorsque je parle de la part du lion, je veux dire six garçons qui sont donc dans lesquels il y a la tribu de Lévi. Donc les Lévi, c'est les Kohanim, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Aaron à Cohen, c'est Yehuda, l'ancêtre de David Ameler, etc. Donc, quelque part, elle va devoir laisser une très, très grande place à Léa. Elle accepte tout ça et c'est comme ça que, voilà, que l'histoire va se terminer. Et donc, je voulais dire que c'est peut-être un grand message pour nous tous. On a tous des projets de vie, des fois motivés par des bonnes raisons, mais nous devons, malgré nous, accepter, mais surtout l'accepter de bon cœur, c'est ça la difficulté, des choix qui nous sont imposés. Et c'est le faire avec joie et se dire c'est pour notre bien et c'est peut-être pas à nous de forcer Dieu à réaliser notre projet de vie initial. Voilà. C'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous ce Motsaï Shabbat.
Et ben c'est un très très beau sujet qu'on va essayer qu'on discutera peut-être demain dimanche. Mais il y a aussi quelque chose qui me fera beaucoup, c'est que c'est une histoire d'amour incroyable, Yaakov et Rachel. Donc en plus, ils s'aiment, quoi. C'est écrit, hein. C'est pas moi qui invente des histoires d'amour. Là, il y en a pas. Il l'aimait tellement que ça lui a paru comme, je sais pas, une très courte période.
Quelques jours. Il a dit 7 ans, on présentait comme ça.
Tellement il l'aimait. C'est beau, hein, de lire ça dans un temps. Parce que normalement, la Torah, on imagine plus des textes, de loi. Non, il l'aimait, ça lui a paru quelques jours. Rav Guy, je vous remercie. Et Shavua Tov.
Shavuot Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention et je vous souhaite à toutes et à toutes Shavuot Tov.
Shalom loy boy na boy, Hashem lo yishmari yid, shav shokat shoyim.